VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Guinée, poursuite de la campagne de l'opposition contre un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. Un jeune manifestant a été tué hier à Conakry par les tirs des forces de sécurité au deuxième jour de la mobilisation contre le projet attribué au chef de l'État de rester au pouvoir après la fin de son deuxième mandat fin 2020. Les détails avec Irénée Armand-Numbo.
Les autorités n'ont pas encore confirmé la quasi-totalité des décès annoncés depuis lundi. La mort d'Abdoulaye Timbosso, 25 ans, porte à près d'une dizaine le nombre de décès rapportés par des témoins depuis le début de la protestation à Conakry et dans d'autres villes du pays. Plusieurs quartiers périphériques de Conakry sont secoués par les violences. Une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens à manifester à partir de lundi contre le projet prêté au président sortant de briguer un troisième mandat en octobre 2020. Le président Alpha Condé a proposé lundi soir la tenue d'un cadre de dialogue et de concertation. Pas de dialogue tant que les membres du Front National pour la Défense de la Constitution, interpellés samedi, reste en prison, a réagi Selunda Diallo, chef de file de l'opposition. Les membres de ce front du refus interpellés samedi vont comparaître aujourd'hui au tribunal de première instance de Dissem à Conakry. Ils sont inculpés pour des faits de manœuvre et actes tendant à troubler la sécurité publique et provoquer des troubles graves.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Nigeria, les militants ayant quitté les rangs du groupe extrémiste Boko Haram ont du mal à réintégrer la vie civile. Ils sont stigmatisés et souffrent de troubles mentaux, devenant souvent des toxicomanes. Un programme de l'hôpital de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, les aide dans leur difficile transition vers une vie nouvelle. Suivons le reportage de Chika Odua à Maïdougouri avec un récit de Lionel Gaïma.
Ibrahim Dobji tient une petite boutique à Maïdougouri et essaie d'oublier son passé. Ça fait 3 ans qu'il a quitté Boko Haram.
Nous avons été forcés d'aller au front et les soldats nous ont vaincus.
Dobji s'est échappé mais a été intercepté par un soldat. Par la suite, sa communauté l'a rejeté.
Les gens vous soupçonnent d'être toujours membre de Boko Haram ou un informateur du groupe. Le gouvernement nous a déjà blanchis, mais les gens se méfient de nous. J'ai besoin de leur pardon.
Des centaines de personnes liées à Boko Haram ont pris part à un programme de réhabilitation du gouvernement nigérian, puis sont libérés. Retourner à la vie normale reste un pari difficile pour eux. Certains sont stigmatisés, d'autres ont des troubles mentaux. Ils viennent se faire traiter dans l'unique hôpital psychiatrique dans tout le nord-est du Nigeria. Des séances de thérapie de groupe les aident, mais la toxicomanie constitue un obstacle majeur. Le docteur Pinda, responsable des services cliniques et de la désintoxication.
Ils sont nombreux à avoir des troubles de comportement ou une phobie qui les incite à se droguer pour pouvoir s'exprimer.
Le pardon pour ces repentis est une nécessité, d'après Joseph Babatunde Sotomay, consultant en sécurité.
Quand ils sont vraiment repentis, ils regrettent. Ils ont besoin d'une surveillance étroite. Les emprisonner n'est pas la solution, car ils peuvent y aller et recommencer à planifier des attaques en prison.
Les milices d'autodéfense qui aident l'armée nigériane dans la lutte contre le terrorisme promettent, pour leur part, qu'elles ne feront aucun mal aux militants de Boko Haram qui se rendent. Mais leur acceptation dans la communauté ne se fera pas du jour au lendemain. Baba Shehu Abdul Ghani, du groupe d'autodéfense.
Ces gens-là ont tué d'autres gens. Ils ont massacré des personnes. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. De nombreux business se sont effondrés. Beaucoup de gens souffrent au sein de la communauté.
Dans sa petite boutique de Maïdougouri, Ibrahim Dobji essaye de gérer ses remords en tentant d'éviter des ennuis avec la population.
Merci Lionel Gaïma.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a promis aujourd'hui, pour les 10 ans de son investiture à la tête du pays, d'accélérer le rythme des réformes et d'intensifier la lutte contre la corruption dans un pays à l'économie en berne, se disant, et je cite, « déterminé à aller jusqu'au bout de sa mission ». Je me sens bien et de mieux en mieux chaque jour, a assuré le chef de l'État gabonais en préambule d'une interview publiée par le quotidien pro-gouvernemental L'Union, près d'un an après avoir été affecté par un AVC, un accident vasculaire cérébral qui l'a longtemps tenu en retrait du pouvoir. Pour sa part, l'opposition gabonaise et aussi des économistes estiment que le Gabon n'a pas su profiter de la manne pétrolière pour diversifier sa production avant que la chute des prix de l'or noir en 2014 ne dégrade profondément son économie. Afrique centrale toujours, en République démocratique du Congo, 45 prisonniers sont morts depuis le début de l'année faute de soins à la prison de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud, Kivu, dans l'est du pays. Le personnel soignant y a déclenché un mouvement de grève, et dit Sango.
La prison centrale de Bukavu est surpeuplée. Les conditions de vie sont très difficiles pour les détenus et la rupture totale du stock de médicaments explique les nombres élevés des 45 décès de janvier à ces jours, a dénoncé les syndicats du personnel soignant dans un mémorandum adressé au gouverneur de la province du Sud Kivu. Le personnel soignant a déclenché une grève depuis lundi 14 octobre. Leurs revendications sont fondées, mais la procédure utilisée n'est pas appropriée, a réagi José Ntumba, directeur de la prison. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a de son côté indiqué que la situation dans ces établissements pénitentiaires était à l'étude. Construite à l'époque coloniale, la prison de Bukavu a une capacité d'accueil de 35 détenus, mais la population carcérale est actuellement de 1850 prisonniers.
Au Zimbabwe, les 300 000 employés de la fonction publique ont annoncé leur intention de ne plus se rendre au travail. Leur syndicat, l'Apex Council, a indiqué hier que les salaires ont perdu toute valeur à cause de l'inflation galopante. Les détails avec Ekia Badou.
Les salaires sont passés en moyenne de $500 américains en 2018 à $40 américains selon Cécilie Alexander, présidente du syndicat des travailleurs du secteur public. L'Apex Council a donc notifié au gouvernement que les fonctionnaires sont dans l'incapacité d'aller au travail. Cette décision intervient alors que les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis 44 jours pour exiger eux aussi une revalorisation de leur salaire. Les médecins refusent de mettre fin à leur mouvement, défiant une décision de justice. Les infirmiers des deux plus grands hôpitaux de la capitale se sont joints à eux. Lundi, le syndicat des enseignants en zone rurale avait aussi appelé ses membres à cesser d'aller au travail. Le Zimbabwe, dans une grave crise économique, a renoué avec les pénuries de toutes sortes, la dégringolade de sa monnaie locale et l'hyperinflation.
Politique aux États-Unis, pour terminer, la sénatrice Elizabeth Warren figure montante dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020 dans le pays et a été la cible d'attaques répétées de ses rivaux, notamment sur son projet de réforme du système de santé. C'était lors d'un débat télévisé organisé mardi soir dans l'Ohio. Le point avec Jean-Roger Bion.
Levant en poupe, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren a fait pour la première fois l'objet d'attaques directes de rivaux centristes. Très attendu après avoir subi une crise cardiaque, le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, s'est montré combatif dans les premiers échanges, notamment sur le sujet de la santé. La procédure de destitution à l'encontre du président républicain Donald Trump, initiée il y a 3 semaines au Congrès, a concentré une bonne partie des interventions. Ce président est le plus corrompu de l'histoire moderne, a lancé Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Les démocrates du Congrès n'ont pas d'autre choix que d'avancer en direction de sa destitution, a-t-il affirmé. Après avoir été épargnée lors des premiers débats, Elizabeth Warren a reçu le feu croisé de ses rivaux, particulièrement les candidats centristes Pete Buttigieg, un jeune maire 4e dans les sondages, 5,2%, et Amy Klobuchar, une sénatrice qui l'ont notamment accusée de ne pas avoir de propositions réalistes sur la réforme de la santé ou sur son programme fiscal.
Et conflit en Syrie, le vice-président des États-Unis Mike Pence partira à destination de la Turquie ce mercredi comme prévu en dépit du refus du président turc Recep Tayyip Erdogan de le rencontrer. L'objectif de Mike Pence, essayer d'obtenir un cessez-le-feu dans les combats qui opposent l'armée turque aux résistants kurdes.